Bonjour à tous et bienvenue dans le 18e numéro de Sans langue de bois, votre émission politique sur les ondes de Transistor. La semaine dernière, Thomas vous proposait une interview exceptionnelle de Marine Le Pen. La présidente du Front National répondait sans langue de bois, interrogée sur des questions d'orientation politique, d'économie et même sur des sujets sur lesquels on l'entend peu ou pas du tout dans les médias traditionnels, comme la santé et l'environnement. Un événement à ne pas manquer. Et c'est d'ailleurs Thomas qui, comme d'habitude, vous dévoile le programme de l'émission d'aujourd'hui. Bonjour Thomas.
Bonjour Marie-Ève, bonjour à tous. À la une de l'actualité politique cette semaine, le voyage de François Hollande en Inde. On se rappelle de celui de Nicolas Sarkozy en 2010 et de sa visite au Taj Mahal en compagnie de Carla Bruni. Hollande est-il dans la droite ligne de Sarkozy? Quels enjeux pour la France en Inde? Des questions auxquelles répondra Mathilde Ferrez. L'enquête de la semaine sera consacrée au mariage pour tous, adopté le mardi 12 février par les députés, après 110 heures de débat âpre à l'Assemblée nationale. 110 heures de débat, pourquoi? Examen de ces amendements qui changent la donne et de cette loi qui change la société. Mais comme les députés ne chôment pas après le mariage pour tous, voilà la réforme du système bancaire, autre engagement de campagne de François Hollande. Pendant la campagne présidentielle, il était de ceux qui voulaient mettre au pas la finance. Colin Allier nous dira si tel sera bel et bien le cas avec le texte adopté par les députés le 19 février dernier. Sans oublier, un sujet plus léger en fin d'émission, une histoire de chemise en or. La chronique mensuelle de Jérôme Bastic, Vue d'Europe, consacrée à l'Eurogroupe. Et un éditorial, cette semaine proposé par Thibaut Sardier, en duplex de Paris.
Sitar signé Ravi Shankar, compositeur indien mort en décembre 2012, et son célèbre et immortel Ragapuri Kalyan pour illustrer à la une de l'actualité politique le voyage de François Hollande en Inde.
Un indispensable, un sujet réalisé par Mathilde Ferrez. Bonjour Mathilde.
Bonjour.
Alors les 14 et 15 février dernier, François Hollande a repris la course diplomatique qu'il avait mise entre parenthèses depuis le début de l'année afin de se faire plus présent sur le territoire français.
Tout à fait, Thomas. Il s'est rendu pour la première fois depuis son élection en Asie, plus précisément en Inde, accompagné de 6 ministres et d'une soixantaine de chefs d'entreprise. Le jeudi à New Delhi, où il a été reçu au palais présidentiel de Rashtrapati Bhavan, le vendredi à Bombay pour une rencontre avec des patrons indiens.
Accord politique et économique donc, au cœur de ce déplacement. Et il faut rappeler que la relation économique avec l'Inde est ancienne et s'exerce traditionnellement dans les domaines de la technologie, de l'industrie spatiale et du militaire.
C'est vrai, mais depuis la signature en 1998 d'un partenariat stratégique, les échanges ont évolué. De plus en plus d'entreprises françaises s'implantent en Inde pour profiter de sa croissance et l'aident en retour à reconstruire les infrastructures qui lui manquent.
Les chefs d'entreprise présents lors du voyage de François Hollande et les projets qu'ils entendent bâtir avec l'Inde sont d'ailleurs, Mathilde, symboliques de cette nouvelle dynamique.
On comptait notamment parmi les patrons le PDG de Dassault Aviation, Éric Trappier. Il est en effet responsable du futur grand accord que la France espère conclure avant la fin de l'année, la vente de 126 avions de chasse de type Rafale à l'Inde. La semaine qui a précédé la visite du président de la République, le chef d'état-major de l'armée de l'air indienne a évoqué une signature de ce contrat avant la mi-2013. L'autre grand contrat en cours est la construction de 2 réacteurs nucléaires EPR par Areva à Jaitapur, à 400 km au sud de Bombay.
Alors ce qui est intéressant, Mathilde, c'est que ces accords économiques en cours entre la France et l'Inde mettent au jour une coopération économique que l'on a tendance, trop souvent, à sous-estimer. On a tendance, en fait, à ne voir que la Chine et à ignorer le mouvement silencieux de l'Inde qui, à terme, pourrait bien rééquilibrer la puissance chinoise.
Oui, dans un article du Monde du 11 février dernier, le co-président du groupe Euro-India, organisation chargée des relations économiques entre l'Europe et l'Inde, indiquait que depuis quelques années se dessine un mouvement important de relocalisation et de diversification des investissements français vis-à-vis de la Chine. Et cette évolution se traduit notamment par des implantations françaises en Inde de plus en plus solides. on compte aujourd'hui 750 entreprises françaises en Inde qui emploient en tout 250 000 personnes.
Alors on comprend le fait que François Hollande ait choisi l'Inde comme premier voyage officiel en Asie illustre ce lien économique croissant entre la France et cette partie de l'Asie.
Oui, et même si, certes, ce fut une visite éclair, l'État indien n'a pas eu l'impression d'avoir été traité comme une Chine de deuxième ordre, selon les dires d'un des principaux représentants du patronat français.
Et stratégiquement, c'est bien ce qui compte, Mathilde. Mais au-delà des simples intérêts économiques, importants ou demeurants dans un contexte où la question du commerce extérieur de notre pays est plus que jamais un sujet brûlant, François Hollande a voulu, par ce voyage en Inde, renforcer les relations politiques et diplomatiques que les deux pays entretiennent déjà. Et il faut d'abord souligner que les accords en question n'auraient évidemment pas vu le jour, sans des échanges sereins préalables, eux-mêmes relatifs à des accords, des soutiens, des prises de position communes entre l'Inde et la France.
Exactement. La France s'en est fait battue pour que l'Inde ait accès au nucléaire civil et elle soutient la candidature de New Delhi à un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU. Les deux pays collaborent également dans la lutte antiterroriste. Le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, présent lors du voyage, a insisté sur la volonté française de continuer à favoriser la place de l'Inde sur la scène internationale. Il est même allé jusqu'à qualifier l'Inde de la plus grande démocratie du monde.
Et cette expression pleine d'emphase du ministre à propos de l'Inde n'est évidemment pas anodine, Mathilde.
Le gouvernement français actuel sait qu'il doit se faire apprécier par les dirigeants indiens qui voyaient d'un bon œil Nicolas Sarkozy. Les deux visites effectuées par l'ancien président en 2008 et en 2010 avaient en effet stimulé les relations franco-indiennes. Il s'était engagé à doubler en 5 ans les échanges commerciaux entre les deux pays et avait lui aussi porté haut et fort l'ambition indienne d'accéder au statut de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Alors si on résume, confirmer des engagements stratégiques, mais surtout rassurer, puisque le début du mandat de François Hollande n'a pas immédiatement mis en confiance le pouvoir politique indien, loin s'en faut.
Oui, tout d'abord, peu après l'élection du nouveau président socialiste, Paris a annoncé le retrait des troupes françaises de l'Afghanistan, une décision mal vécue par New Delhi, qui s'inquiète d'une retalibanisation de l'Afghanistan après le départ des troupes occidentales.
Mais surtout, Mathilde, l'image du gouvernement français a été ensuite affaiblie avec l'affaire Montebourg-Mittal, qui a éclaté à la fin de l'année dernière.
La communauté indienne des affaires s'est dite profondément choquée par la polémique autour de la nationalisation des hauts fourneaux de Florange, propriété de l'Indien Lakshmi Mittal. À ce titre, il est intéressant de remarquer qu'Arnaud Montebourg, bien que ministre du redressement productif, n'a pas été convié à ce voyage. En voulant renforcer les relations avec l'Inde, François Hollande a aussi pris soin d'éviter de réveiller les vieux démons.
Alors cependant, alors que le président commençait sa visite diplomatique le jeudi 14 février, Arnaud Montebourg, lui, était invité dans la matinale d'Europe 1. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas changé d'un iota, ni sa ligne, ni son ton. Malgré la visite de François Hollande en Inde, il a maintenu la position ferme qu'il avait affirmée en novembre 2012 vis-à-vis de l'industriel indien. Et on l'écoute d'ailleurs au micro de Caroline Roux.
Je ne considère pas que mes propos aient été excessifs au regard des méthodes abusives de la famille Mittal. Je rappelle qu'ils sont l'auteur d'une OPA agressive sur l'acier européen détenu par Arcelor. Ils nous ont jamais demandé l'autorisation et même le ministre de l'économie de l'époque, M. Thierry Breton, du gouvernement de Jacques Chirac, s'en était ému et a soutenu ma position. Donc je voudrais vous dire, madame, que les dégâts causés aujourd'hui sur mes propos, c'est surtout sur le moral de M. Mittal, qui ne peut pas aujourd'hui se comporter n'importe comment.
Arnaud Montebourg qui en a profité pour rappeler que Lakshmi Mittal est en réalité plus européen qu'indien, puisqu'il ne possède pas de groupe en Inde et a officiellement le statut de résident britannique.
Alors à l'instar d'Arnaud Montebourg, c'est Najat Vallaud-Belkacem qui a également été privé de voyage, Mathilde.
Oui, un temps envisagé, la présence dans la délégation de la ministre des Droits des Femmes n'a finalement pas été retenue. Au vu des affaires de viol qui ont fait le gros de l'actualité indienne récemment, sa venue aurait pu être interprétée comme stigmatisante.
Prudence, donc, du côté de François Hollande lors de sa visite en Inde, ce qui montre bien les enjeux diplomatiques et géopolitiques qui priment sur l'enjeu économique ou militaire.
Certes, les bonnes relations politiques sont indispensables à des échanges économiques fructueux. Seulement, on ne va pas qu'en Inde pour vendre des avions. Derrière cette vente potentielle, c'est la volonté plus profonde de rétablir de l'équilibre dans les relations géopolitiques mondiales. Dans le triangle des géants, que sont l'Afrique, la Chine et l'Inde, cette dernière apparaît comme la clé d'un monde multipolaire. Si la France doit entretenir de bonnes relations avec l'Inde, c'est donc avant tout pour construire avec elle sans néocolonialisme ni mépris, une alliance solide entre l'Inde, la Chine et l'Afrique, de façon à maintenir les équilibres mondiaux.
Inde indispensable, un sujet réalisé par Mathilde Férez. Merci Mathilde. Sans langue de bois, c'est le choix d'accueillir toutes les opinions, parfois opposées, voire contradictoires, toutes les sensibilités politiques, pour enrichir et nuancer la réflexion et le débat public.
Place donc à l'éditorial de l'émission et à la plume de Thibault. Alors en duplex de Paris, on te retrouve Thibault, salut.
Bonjour Thomas, bonjour Marie-Ève, bonjour à tous.
Alors tu vas, je crois, nous parler d'écologie. Et deux faits d'actualité de la semaine écoulée ont particulièrement retenu ton attention.
Oui, effectivement Thomas, deux petits faits d'actualité hein, qui ont marqué pour moi la semaine écoulée. Et le premier, c'est l'annonce de l'augmentation de 30% sur 5 ans des tarifs de l'électricité en France, qui ont vu fleurir un certain nombre de sujets dans nos JT sur la question du coût des énergies avec ces fameux micro-trottoirs réalisés dans des stations-service où les automobilistes s'effraient du prix à la pompe. Le deuxième sujet est intervenu quelques jours plus tard et il portait celui-là sur les temps de transport. On apprenait en effet que les Français mettent en moyenne 25 minutes pour aller au travail depuis leur domicile et qu'ils utilisent massivement la voiture. Là encore, on avait droit à des micro-trottoirs qui nous permettaient d'entendre que les bouchons, c'est vraiment pas marrant. Alors, ces deux éléments, outre leur dimension anecdotique, nous rappellent un constat simple, c'est que nous vivons une période de changement, et sans doute de changement radical. Les sources d'énergie que nous utilisons depuis près d'un siècle s'épuisent, de telle sorte que l'énergie coûtera de plus en plus cher, de telle sorte qu'il nous faudra en limiter notre consommation, de telle sorte, c'est le dernier, qu'il va nous falloir modifier nos comportements au quotidien. Reste donc à nous poser une question, à tous les niveaux, individuel, familial, collectif, municipal, régional, national, etc. Que préférons-nous ? Nous laisser porter par un système en inertie et en arriver à subir des contraintes auxquelles nous ne serons pas préparés ? Ou alors inventer dès aujourd'hui de nouvelles formes de vie satisfaisantes pour chacun d'entre nous ?
On devine assez aisément la réponse que tu suggères quand même.
Oui, évidemment Thomas, mais choisir la deuxième option comme je le suggère, effectivement, c'est ouvrir un abîme de questions tout à fait passionnantes. Si on reprend le thème de l'énergie, par exemple, il faut se demander comment développer de manière massive et satisfaisante les énergies renouvelables ? Comment partager et transporter cette nouvelle énergie produite en des lieux bien plus nombreux et en des quantités bien moindres par chaque unité de production. Il faut se demander aussi quel mode de gouvernement on peut inventer pour promouvoir les échanges locaux dans un monde globalisé, comment les nouvelles technologies de l'information et de la communication peuvent nous aider à optimiser nos déplacements, tant du point de vue du temps que de la consommation d'énergie ou encore du rejet de gaz à effet de serre. Et soit dit en passant, Lyon lance ces jours-ci dans ce but le système OptiMode Lyon qui promet de belles avancées pour l'optimisation des temps de transport. Bref, on pourrait poursuivre à l'infini cette liste de questions en évoquant l'agriculture locale et urbaine, l'éducation, les questions de décroissance conviviale, chères à Serge Latouche, ou encore celle de troisième révolution industrielle défendue par Jérémy Rifkin. On voit ainsi combien les questions sont imbriquées les unes les autres et combien elles nous invitent à penser à toutes les échelles un nouveau système de fonctionnement et de valeurs. Le 17 février dernier, quelques 30 000 Américains se massaient à Washington, près de la Maison Blanche, pour inciter Barack Obama à l'action en matière d'écologie et soutenir leur président qui, quelques jours plus tôt, avait annoncé qu'il n'hésiterait pas à agir par décret pour mettre en place une politique écologique plus ambitieuse. Fin 2012, en France, un débat sur la transition énergétique a été lancé par le ministère de l'écologie qui devrait aboutir cette année à un projet de loi. À travers ces deux initiatives seront donc posées aux États-Unis et en France des questions écologiques importantes pour lesquelles il faudra bien sûr trouver des réponses. Mais il ne s'agit là que de quelques facettes d'un problème plus vaste que l'on aperçoit à travers les réflexions politiques, par exemple sur la décentralisation, sur la Sixième République ou encore sur la démocratie participative, qui sont les symptômes d'une évolution des paradigmes politiques. Et c'est sans doute à partir de ces questionnements que nous serons à même de régler les problèmes écologiques qui se présentent à nous. Alors disons-le, pour conclure, vive l'écologie, bien sûr, mais vive la politique d'abord.
Merci beaucoup Thibault.
Dans un précédent numéro du grand journal politique de Sans langue de bois, Thibault, tu abordais la question du mariage pour tous. Tu n'es pas sans savoir que le projet de loi Taubira a été adopté le mardi 12 février après 110 heures de débat et l'examen d'un nombre impensable d'amendements. Que reste-t-il de ces 110 heures de débat ? C'est l'enquête de la semaine.
Si Hercule avait à accomplir en 2013 ses 12 travaux, Marie-Ève, eh bien gageons que dans la liste, plus éprouvant que le nettoyage des écuries de Gias, plus délicat que la chasse de la biche au pied d'airain, plus dangereux que l'affrontement avec l'hydre de Lerne ou le lion de Némée, ou les deux réunis, serait incluse la participation au débat parlementaire à propos du mariage pour tous.
Oui Thomas, même si tu exagères un peu, c'est effectivement un vrai marathon pour rester en Grèce antique.
Alors les députés n'ont en effet pas chômé, Marie-Ève, pour devenir sérieux. 10 jours de débat, soit 110 heures de discussion, répartis sur 24 séances, 5166 amendements déposés par l'opposition bien décidés à débattre et à en découdre, accusé de faire obstruction par la ministre de la Justice elle-même, porteuse du projet Christiane Taubira.
Pour autant, si l'on se replonge dans les archives de l'Assemblée nationale, il y a eu pire.
Oui, le débat sur le mariage pour tous est en effet loin d'égaler, Marie-Ève, le débat autour du projet de loi sur la presse. Alors flashback, on est entre le 15 décembre 1983 et le 13 février 1984. Les députés avaient alors débattu pendant 166h50, le temps de 20 séances. De même, concernant le nombre impressionnant d'amendements déposés par l'opposition, 5367, on est très loin des 137 665 amendements déposés en septembre 2006 lors de l'examen du texte sur l'énergie. Et à l'époque, Jean-Louis Debré, président de l'Assemblée nationale, s'était fait prendre en photo, encerclé par des murs de papier qui occupaient presque intégralement son bureau.
Mais l'opposition n'a pas utilisé que ces 5166 amendements afin de ralentir la procédure législative. Elle a aussi eu recours à des rappels au règlement.
Oui, et à ce jeu-là, c'est Hervé Mariton, le député UMP de la Drôme, célèbre pour ses pulls colorés, qui s'est illustré. Prévu à l'article 58 du règlement de l'Assemblée nationale, le rappel au règlement, Marie-Ève, eh bien, il permet aux députés de prendre la parole pendant 2 minutes de façon prioritaire, et de suspendre ainsi la discussion en cours. Et pendant tout le débat à l'Assemblée sur le mariage pour tous, eh bien, il y a eu 241 rappels au règlement et 54 suspensions de séance, ce qui correspond à 14 heures de discussion sur les 110 au total quand même.
Eh oui, une bataille parlementaire que certains jugeront à la mesure du changement permis par celle que l'on peut donc désormais nommer la loi Taubira.
Oui Marie-Ève, ouverture du mariage aux personnes de même sexe, possibilité pour un couple homosexuel de faire une demande d'adoption à deux, ou que le parent social, c'est le terme, adopte l'enfant de son conjoint, et également la transmission patronymique, voilà l'égalité permise par le mariage pour tous.
Oui Thomas, tu parlais de transmission patronymique, mais qu'est-ce que c'est ?
Ah oui Marie-Ève, t'as raison, c'est un point qui a été ajouté très peu de temps avant que le projet de loi arrive devant les députés. Jusque-là, un enfant pouvait porter le nom de sa mère, de son père ou des deux. Et en cas de désaccord entre les parents, notamment quand il y avait un divorce, c'était le nom du père qui était attribué. Désormais, en cas de désaccord ou d'absence de choix des parents, les noms de chacun d'eux, accolés dans l'ordre alphabétique, seront donnés à l'enfant.
Enfin, merci Thomas pour cette précision,
mais de rien.
Peut-être utile à nos chers auditeurs. Une vraie bataille parlementaire donc, de nombreux clashs relayés dans tous les médias, et même un fou rire nerveux signé Christiane Taubira. Et tout ça, pourquoi ?
La question finalement Marie-Ève, c'est « Et si les 110 heures de débat n'avaient servi à rien ?» C'est ce que le député Front National Gilbert Collard déclarait dès le mardi 12 février au matin même sur iTélé. On l'écoute au micro de Christophe Barbier.
Ça fait des semaines, des jours qu'au Parlement, on parle pour n'être jamais entendu. Rendez-vous compte que ça ne change rien. Les débats sont cinématographiques. Il n'y a pas une modification d'une virgule dans le texte. On a une majorité qui est militaire, qui n'entend rien, qui avance, qui ne retient aucun argument, qui n'a rien à foutre de l'opposition, rien à faire.
Avec son franc-parler, alors Gilbert Collard a-t-il eu raison, Thomas ? À quoi ont servi ces 110 heures de débat ? Le texte a été adopté, et ce sans surprise, puisque le gouvernement dispose à l'Assemblée d'une majorité nette.
Et contrairement à ce qu'affirme Gilbert Collard, Marie-Ève, le texte a été modifié. Mais le projet de loi n'en est pas fondamentalement bouleversé pour autant. Hein. Parce que sur les amendements dont on parlait, plus de 5000 déposés dans l'hémicycle, 17 seulement ont été adoptés par les députés. Et sur les 17, 14 venaient de la majorité et 3 de l'opposition. On le voit bien au bout du compte, ce ne sont que 500 mots qui ont été ajoutés en comparaison avec le projet de loi initial. Autant dire qu'on est vraiment loin de la révolution, Marie-Ève. 110 heures pour écrire 500 mots, comme quoi on a effectivement un sérieux problème de productivité en France.
Donc ça veut dire que Gilbert Collard a raison.
Eh ben non, Marie-Ève, même minime, les changements doivent être pris en compte. Par exemple, grâce à l'amendement numéro 17, déposé par plusieurs députés UMP, dont Hervé Mariton, dont on parlait tout à l'heure, Nathalie Kosciusko-Morizet, Benoît Apparu et Philippe Gosselin, les futurs mariés, grâce à cet amendement, qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, ben oui, mariage pour tous, hein, pourront désormais, s'ils le souhaitent, s'unir dans la ville de résidence d'un de leurs parents, alors que jusqu'ici, légalement, ils ne pouvaient célébrer leur mariage que dans leur propre commune de résidence. Et les députés UMP d'évoquer, pour justifier cet amendement, des motifs à la fois d'ordre sentimental et pratique.
Oui, enfin, on est un peu dans le détail là, non ?
Bon alors, plus important, pour te faire plaisir, Marie-Ève, l'amendement Biné sur le parent social. En attendant le projet de loi sur la famille qui devrait combler le vide juridique du beau-parent, l'amendement 5255, pour les notes, déposé par le rapporteur socialiste du projet de loi, Erwan Binet, donc, donne la possibilité au juge d'intervenir en cas de séparation d'un couple. Et ce, dans l'intérêt de l'enfant, bien sûr. Concrètement, un juge pourra prendre des mesures permettant aux parents dits social de maintenir une relation avec l'enfant biologique de son ex-conjoint, avec qui il a noué des liens affectifs durables, selon le texte de l'amendement même, et qui a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, je cite toujours. Rappelons qu'aujourd'hui, légalement, en effet, le beau-parent non marié avec le père ou la mère biologique n'a aucun droit sur l'enfant en cas de séparation ou de décès de son conjoint. Et cet amendement, Marie-Ève, c'est quand même loin d'être du détail.
Je crois que t'as raison, Thomas. Et quoi d'autre alors ?
Alors on peut citer également l'amendement 4405 qui vise à lever les difficultés que les familles homosexuelles connaissent aujourd'hui pour adhérer à l'Union nationale des associations familiales ou à toute autre structure représentative des familles, et ce afin d'y être officiellement représentées et surtout, très important à mon sens, l'amendement 4361 qui vise à remplacer les mots « célébrer publiquement devant » de l'article 165 du Code civil par les mots « prononcer lors d'une célébration publique et républicaine par ».
Et alors, qu'est-ce que ça change ?
Et alors, Marie-Ève, il s'agit là, à mes yeux, de l'amendement le plus important adopté et qui implique une évolution de taille qu'il ne faut pas sous-estimer. Puisqu'en effet, il vise à introduire dans le Code civil l'affirmation du caractère républicain de la célébration du mariage. Le mariage civil, il illustre effectivement à plusieurs titres les valeurs républicaines. Il est d'abord une liberté, droit de se marier, droit de refuser le mariage, droit de choisir son conjoint. Il est aussi, depuis la Révolution française, une institution laïque. Le rite civil qui l'entoure en atteste, la cérémonie du mariage devant le maire, agissant en sa qualité d'officier d'état civil, dans une salle de la mairie, portant l'effigie de la Marianne, symbole de la République, en est le reflet. Valeur fondamentale, cette laïcité, rappelée par l'article 1er de la Constitution.
Et donc il était nécessaire de le rappeler ici encore.
Oui, Marie-Ève, parce que rappeler la valeur républicaine de la célébration du mariage, c'est répondre à toutes ces polémiques idiotes entendues dans la rue et relayées à trop grands traits dans les médias. Le mariage pour tous ne va pas à l'encontre d'une religion, quelle qu'elle soit. Le mariage pour tous n'est pas non plus le privilège de quelques-uns. Le mariage pour tous, ce n'est pas non plus une affaire de sentiment, comme si on se mariait de tout temps par amour, comme si la loi faisait dans l'affect. Non. Le mariage pour tous, c'est la République qui décide de reconnaître et de protéger, à égalité, tous ces hommes et ces femmes qui, rappelons-le s'il en est besoin, sont nés libres et égaux en droit et qui, avant d'être hommes ou femmes, grands ou petits, riches ou pauvres, hétérosexuels ou homosexuels, sont des citoyens et des citoyennes. Le mariage pour tous, Marie-Ève, c'est la République qui protège ses enfants, leur avenir, et veille à ce qu'ils soient élevés dans les mêmes et la meilleure situation. Quelles que soient les conditions matérielles, sociales, géographiques et familiales de leur éducation, pour tous, le mariage qui définitivement la sphère de la religion, à laquelle il n'appartenait plus d'ailleurs depuis la Révolution, puisque depuis 1791, il faut le rappeler, si en France le mariage religieux est possible, il n'a aucune valeur légale.
Bon, ta grande déclaration d'amour pour le mariage pour tous, Thomas, elle est un
pour
peu lyrique.
Pour la République.
Pour la République surtout. Mais finalement, tout à fait de circonstance, puisque ces 110 heures de débats intenses ont également permis à une femme politique d'acquérir une stature importante. Et ce, pour ses discours, ses envolées lyriques, elles aussi, son charisme et sa détermination. Et cette femme à laquelle tu vas maintenant rendre hommage, c'est Christiane Taubira.
Oui, en disant que sa cote de popularité à Christiane Taubira, eh bien, elle explose. dans le baromètre politique BVA Orange, tu feras de l'hommage autre part, mais là, c'est un fait. En février,
c'est un hommage public.
Un hommage public, oui. En février 2013, elle, dans ce sondage réalisé pour la presse quotidienne régionale, France Inter et L'Express, eh bien, la ministre de la Justice gagne 14 points en un mois, c'est spectaculaire. Elle grimpe 17 marches d'un coup dans le palmarès des personnalités politiques préférées des Français, passant de la 22e à la 5e place.
Et en parlant d'hommage à gauche, c'est carrément la Taubira Mania. La garde des Sceaux gagne 25 points auprès des sympathisants de gauche, devenant de loin leur personnalité politique préférée.
Oui, et puis je vais bien lui rendre hommage quand même, tu t'en doutes. Ça faisait longtemps, Marie-Ève, que l'on n'avait pas eu un garde des Sceaux de cette dimension. Avant Christiane Taubira, du plus récent au plus lointain, il y a eu à ce poste Michel Mercier, qu'on avait déjà oublié, Michel Alliot-Marie, qui n'a pas brillé par son efficacité, Rachida Dati, qui fut certainement la garde des Sceaux la plus critiquée par le monde de la justice lui-même, du fait de la réforme de la carte judiciaire que d'aucuns, de tous bords confondus d'ailleurs, jugent depuis mal ficelée et mal menée. Cela faisait donc presque 10 ans, si on compte bien, que nous n'avions pas eu un garde des Sceaux de la trempe d'une Elisabeth Guigou, par ailleurs première femme à occuper ce poste, ou d'un Dominique Perben. Et évidemment, comment ne pas penser dans cette liste à Robert Badinter, garde des Sceaux de 1980 à 1986, révélé lui aussi par un autre sujet de société, certes plus fondateur et fondamental, l'abolition de la peine de mort.
Oui, mais enfin, excuse-moi de t'interrompre, si on résume maintenant 110 heures de débat, 17 amendements, 500 mots, des changements importants mais pas fondamentaux, et une garde des Sceaux entrée dans l'histoire. Reste à savoir si elle y restera aussi, et surtout ce que l'on retiendra dans 100 ans de tout ça. Et si on changeait d'échelle, si on prenait du recul, et si on regardait la politique européenne et la politique avec des yeux d'Européens ? La France n'a pas été le seul pays européen à accorder récemment le droit de vote aux couples de même sexe.
En effet, Marie-Ève, l'Angleterre et le Pays de Galles, la loi ne concerne en effet ni l'Écosse ni l'Irlande du Nord qui légifèrent séparément, eh bien ont adopté par voie législative le 5 février dernier, par 400 voix contre 175, plus de la moitié des conservateurs s'y sont opposés, un projet similaire au mariage pour tous français.
Mais contrairement à la situation française et aux 110 heures de débat dont nous parlions à l'instant, le texte n'a pas passionné les foules.
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire, Marie-Ève, puisque il faut dire que le Royaume-Uni, eh ben en fait, il reconnaissait depuis 2004 une union civile pour les couples homosexuels, une union qui n'accordait certes pas les mêmes droits que le mariage pour les couples hétérosexuels, mais qui donnait lieu à une cérémonie devant le maire, par exemple, et qui surtout ouvrait à bien plus de droits que le Pax en France, par exemple. De plus, en Angleterre, depuis 2005, l'adoption, elle était déjà ouverte aux couples, qu'ils soient non mariés ou, eh bien, homosexuels.
On imagine donc que, vu depuis The Houses of Parliament, les 110 heures de débat et les manifestations géantes des opposants ou des partisans en France ressemblèrent fort à ce titre de Shakespeare, beaucoup de bruit pour rien. On voit donc encore une fois, et vous y êtes habitués, chers auditeurs, que sur ce sujet, comme sur bien d'autres, regarder la politique avec des yeux européens permet de prendre un recul salutaire.
Parce que l'Union européenne, ce n'est pas que des technocrates bruxellois incompréhensibles ou une crise de la zone euro. Parce que l'Union européenne mérite mieux que l'image lointaine et souvent négative qu'en donnent la plupart des médias traditionnels. Jérôme nous présente régulièrement sa chronique Vue d'Europe.
L'Eurogroupe. On n'en entend pas beaucoup parler de l'Eurogroupe. Et pourtant, c'est une institution capitale de l'Union européenne, surtout en ce moment. Arrêtons-nous-y donc quelques instants pour y voir plus clair. L'Eurogroupe, c'est la réunion de l'ensemble des ministres des Finances de la zone euro, qui doit servir d'instrument de coopération entre les politiques de gouvernance économique qui partagent une même monnaie, l'euro. Le grand problème de l'euro, c'est sans doute que l'Union européenne n'a jamais été suivie d'aucune harmonisation budgétaire ou fiscale réelle. C'était jusqu'à présent le Premier ministre luxembourgeois, Jean-Claude Juncker, qui présidait cette institution plus ou moins informelle, mais aussi de moins en moins informelle. Les difficultés que traverse actuellement la zone euro justifient pleinement cette progressive institutionnalisation. Or, en janvier dernier, l'Eurogroupe a changé de président. Quand Jean-Claude Juncker a annoncé son retrait, Paris et Berlin se sont vite mis à saliver. Deux horizons différents, deux visions de l'économie différentes, représentées par le ministre des Finances français, Pierre Moscovici, et son homologue allemand, Wolfgang Schäuble. Pendant quelques semaines, les deux hommes, qui pèsent évidemment beaucoup sur la scène politique et économique européenne, se sont un peu regardés en chien de faïence, en jouant au chat et à la souris sur le mode « si t'y vas pas, j'y vais ». En ces temps où l'on célébrait dans une allégresse toute relative le cinquantenaire de l'amitié franco-allemande. Mais c'était sans compter sur le fait que Jean-Claude Juncker avait soigneusement préparé sa succession. Et en fin de compte, ça n'a pas été l'histoire du chat et de la souris, mais celle du lièvre et de la tortue. Et le lapin qui est finalement sorti du chapeau, personne ne l'a vu venir. Il répond au doux nom de Jeroen Dijsselbloem. Il a 47 ans. Il n'a jamais fait de vagues, sauf lorsqu'il a demandé l'interdiction de jeux vidéo violents et fustigé, je cite, « la nudité à la télévision ». Il n'était ministre des Finances des Pays-Bas que depuis à peine 2 mois, et il était totalement inconnu du grand public. C'est sûr que cela va encore aider les citoyens européens à se reconnaître dans leurs dirigeants. L'Union européenne a décidément le chic pour mettre en tête de proue d'éminentes personnalités. On se souvient, il y a 4 ans, de l'arrivée fracassante du célébrissime Herman von Rompuy et de la non moins renommée Catherine Ashton à la tête de la diplomatie européenne. Mais enfin bon, en attendant, notre cher Moscou mange son chapeau. Il a même critiqué à mots couverts la nomination de cet ancien député très peu expérimenté en le qualifiant de sympathique. Comprenez, incompétent. Le choix d'un Irlandais était en réalité un choix par défaut. Il fallait un pays qui soit membre de la zone euro. Pour gérer l'euro, c'est sûr que ça vaut mieux. Il fallait éviter les mastodontes français et allemands pour ne favoriser personne officiellement, mais quand même un des 6 pays fondateurs de l'Union. Il ne restait alors que le Benelux, encore et toujours le Benelux. Et après le luxembourgeois Juncker, c'est donc le néerlandais Jeroen Dijsselbloem qui a été choisi, en attendant sans doute un Belge pour la prochaine fois. Il ne connaît pas bien les arcanes des institutions européennes, ce Jeroen Dijsselbloem. Il n'a pas beaucoup d'expérience pour la gestion des crises, mais tout le monde est quand même tombé d'accord sur lui. Allez comprendre. À tout prendre, la France de François Hollande peut quand même se réjouir. C'est l'orientation social-démocrate qui semble avoir été retenue. Et puis, après tout, l'heureux élu n'est-il pas hollandais ? Blague à part, l'Allemagne y trouve aussi son compte. Le gouvernement néerlandais, l'un des rares en Europe à avoir conservé son triple A, est le plus fervent soutien de l'austérité budgétaire et de l'orthodoxie de la politique économique d'Angela Merkel. Moscovici a d'ailleurs prévenu « Ce que j'attends, c'est qu'on garde une vision inspirée, qu'on n'ait pas une vision restrictive, que ce ne soit pas une Europe triple A ou une Europe du Nord contre une Europe du Sud. » Et d'ajouter, peu amène pour son nouveau président, c'est une tâche extraordinairement lourde, et je pense qu'elle doit être faite complètement. Bref, on pouvait attendre un président effacé, utile pour ses qualités de médiateur. À vrai dire, c'est sans doute ce sur quoi même certains comptaient bien. Mais, en patois brabançon, Dijsselbloem, cela signifie « fleur de chardon ». Et le chardon, ça peut piquer. Pour la première réunion de l'Eurogroupe sous sa présidence, le nouvel élu a voulu marquer le coup. Il a réussi à se mettre à dos le ministre chypriote des Finances en refusant d'exclure que les actionnaires et les épargnants des banques chypriotes soient obligés de contribuer au sauvetage de l'euro. Le ton est monté d'un cran et un diplomate chypriote a qualifié l'approche de Jeroen Dijsselbloem de complètement inacceptable en le mettant en garde contre une ruée des épargnants pour vider leurs comptes et précipiter ainsi le secteur bancaire chypriote dans le mur. Et de conclure par un petit coup de pied de l'âne, Juncker, lui, n'aurait jamais fait cela. Une nouvelle tête à suivre, donc. Mais si je n'avais qu'une seule chose à demander, le plus modestement possible, c'est que l'on arrête, par pitié, de nommer au poste stratégique de l'Union européenne des gens en fonction de leur nationalité ou de leur parti, plutôt qu'en fonction de leurs compétences. S'il vous plaît, un tout petit peu plus de démocratie et de bon sens seulement dans les rouages de cette grande machine européenne, c'est vital. C'est le seul moyen d'éviter un divorce définitif avec les citoyens européens et, qui sait, de sortir de là.
« Le projet de loi Taubira adopté, les députés n'ont pas pris les vacances, malgré leurs 110 heures de débat à faire pâlir Martine Aubry et ses 35 heures.
Et non, Marie-Ève, ils se sont remis au travail immédiatement. Et comme un sujet en chasse un autre, d'un sujet de société, ils se sont ensuite attelés à une question d'ordre économique. La réforme du système bancaire adoptée le mardi 19 février par 315 voix contre 161 et qui correspondait encore une fois à un engagement de campagne de François Hollande, l'engagement numéro 7 exactement. Je séparerai les activités des banques qui sont utiles à l'investissement et à l'emploi de leurs opérations spéculatives. Fin de citation.
Et pour nous en parler, c'est Colline Allier qui a pris place derrière le micro de Sans Langue de Bois. Bonjour Colline.
Bonjour.
Alors je le disais Colline, bonjour. La réforme du système bancaire correspond à un engagement de campagne de François Hollande.
Oui, en effet, en janvier dernier, au Bourget, le discours du candidat François Hollande décrivait le monde de la finance comme un adversaire. Le candidat socialiste prévoyait alors de le maîtriser.
Et il était loin d'être le seul à user de termes parfois très forts à l'égard du monde de la finance.
C'est vrai Thomas. Réagissant au discours du Bourget que j'évoquais à l'instant, Jean-Luc Mélenchon, par exemple, disait se sentir moins seul à l'écoute des déclarations du candidat socialiste. Et d'ajouter « On ne fait pas la guerre à la finance avec un pistolet à bouchon. C'est des méchants en face. C'est pas le concours de l'ENA là. C'est la lutte grave et méchante. » Rappelons aussi que cette ligne de la lutte contre le monde de la finance était défendue par l'ensemble de la gauche, et même par Marine Le Pen.
Un climat favorable donc à une réforme d'ampleur. Et pourtant, le projet de loi tel qu'il a été adopté par les députés semble assez limité, Colline.
C'est d'ailleurs une critique qui lui a été adressée dès le 19 décembre dernier. Et l'examen par le Conseil des ministres du projet de loi porté par Pierre Moscovici, ministre de l'économie et des finances. Le gouvernement était alors déjà accusé d'avoir été sensible au plaidoyer du lobby bancaire, qui a mis en garde contre une réforme dure, risquant de compromettre sa capacité à financer l'économie, donc le retour à la croissance. On prédisait que la réforme se ferait à minima, en deçà des réformes américaines Volcker et britanniques Vickers. Ce que l'avocat Hubert de Vauplane résumait par cette formule, ce sera un mini-Volvic.
Alors qu'en est-il exactement, Colline ? Et pour cela, il faut que tu nous expliques en quoi consiste cette loi bancaire dont on parle et qui a été adoptée le 19 février dernier.
Avec ce projet de loi, les banques auront obligation, d'ici à 2015, de loger leurs activités les plus spéculatives dans des filiales, financées de façon totalement autonome. Le but, marquer une frontière entre l'épargne des clients et les activités qui permettent aux établissements financiers de gagner de l'argent sur le marché.
Le problème, c'est que les contours de la loi, eux, sont encore flous. Par exemple, quelles activités cela concerne-t-il précisément ? S'agit-il ou non d'une séparation stricte entre banque d'affaires et de dépôt ? On ne sait pas très bien.
La réponse à cette dernière question, Thomas, est clairement non. Et en cela, la réforme déçoit, comparée aux attentes générées par le discours du candidat Hollande et par les peurs liées à la crise financière de 2008.
Alors si je comprends bien ce que tu dis, Colline, quasiment un an après, la loi bancaire adoptée n'annonce pas de bouleversement dans le monde des banques. Les établissements ne seront pas scindés en deux avec d'un côté les activités de crédit et de l'autre la spéculation financière.
La banque où l'on peut déposer son argent et le placer subsiste. Les Français conservent donc la banque universelle, capable d'offrir, par exemple, aux clients entreprises une large gamme de services, du crédit classique à l'émission d'obligations en passant par les instruments de couverture contre les variations de change, de taux ou de prix. Demeure juste cette obligation de création de filiales pour les activités les plus spéculatives, que l'on évoquait tout à l'heure.
Cependant, la loi interdit également, purement et simplement, et ça c'est une avancée, certaines activités spéculatives, même à l'intérieur de ces filiales, Colline.
Oui. Par exemple, sera désormais interdit le trading haute fréquence, activité qui consiste à programmer des ordinateurs pour qu'ils tirent parti de minuscules écarts de prix entre places de cotation pour un même produit financier. Autre activité proscrite, les transactions, menées pour leur propre compte par les banques sur le marché des produits dérivés de matières premières agricoles. Ces produits permettent de se couvrir contre des variations de cours, mais pouvant aussi être utilisés pour spéculer.
Certaines avancées donc, mais n'est-ce pas une réforme à minima tout de même, Colline ?
À croire le gouverneur de la Banque de France, Christian Noyer, non. Il juge qu'elle correspond à ce qui est l'optimal pour l'économie française. Je ne suis pas du tout d'accord pour dire que c'est une réforme à minima, disait-il.
Or, en même temps, tout le monde ne semble pas de son avis.
C'est le moins qu'on puisse dire, Thomas. Sans parler des acteurs politiques, l'UMP ayant majoritairement voté contre ce projet, l'UDI et le Front de Gauche s'étant, eux, abstenus. Pour 75 économistes signataires d'une tribune commune, ce projet de loi ne résout rien. Ils vont même plus loin, déclarant que cette loi laisse une porte ouverte à une nouvelle crise.
Réforme à minima, porte ouverte à une nouvelle crise ou première étape vers une régulation progressive de la finance, affaire à suivre donc. Merci Colline. Et on termine comme d'habitude sur une note plus légère.
Alors en ouverture de cette émission, nous parlions, Marie-Ève, du voyage en Inde avec Mathilde effectué par François Hollande mi-février. Et c'est en Inde qu'on va vous emmener à présent, chers auditeurs, pour clore ce 18e numéro du grand journal politique de Sans Langue de Bois.
Il est l'heure de se réveiller, Monseigneur, il est 8h.
Tu as mangé une ?
Vous êtes sort ?
Tout à fait sort !
Ça alors ?
Je dirais sous le lit.
Alors, à l'instar de Don Salluste de Bazan, alias Louis de Funès, vous l'aurez reconnu, que Blaze, joué par Yves Montand, réveille au son des pièces d'or, eh bien, Dattafuge, un homme d'affaires indien, je vous avais promis un voyage en Inde, aime passionnément l'or et les bijoux, et pour combler ses désirs, le voilà désormais l'heureux propriétaire d'une rutilante chemise parsemée de 14 000 pièces d'or et de 22 carats.
Alors tenez-vous bien, il a fallu 15 artisans et un travail de 16 jours pour confectionner cet habit de lumière à Dattafuge, 42 ans. La chemise qui pèse 3,3 kg lui a coûté 12,7 millions de roupies, c'est-à-dire 177 000 euros.
Et il la porte, sa chemise ?
Bah oui, c'est toi qui l'as écrit.
Et il la porte, sa chemise ?
Bah bien sûr, surtout que vu le prix, ce serait idiot qu'il ne la porte pas. Mais seulement pour les grandes occasions. Parce que vu le prix, ce serait idiot également de l'attacher. Surtout que je ne suis pas très sûre que cela aille à la machine, ni qu'il soit prudent de le confier au pressing. L'ennui surtout, Thomas, c'est qu'il la porte avec d'autres bijoux en or. Ce qui, petit conseil de mode, ne va absolument pas du tout. Le ton sur ton est à bannir, comme chacun le sait.
Alors après cette minute mode, merci Marie-Ève. Rappelons que dans un pays comme l'Inde, où la misère est endémique et où plus de 40% des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition, le bling-bling de cet homme d'affaires a de quoi en choquer plus d'un.
Oui, mais apparemment pas lui-même, puisqu'il déclare « Tout le monde me connaît dans la région comme étant l'homme en or. D'autres riches dépensent 10 millions de roupies pour acheter une Audi ou une Mercedes ou ce qu'ils aiment. » Quel crime ai-je donc commis ? J'adore simplement l'or.
Pour finir, citons un proverbe indien. L'or te donne la terre te donne l'or.
Notre émission touche à sa fin, merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la page de l'émission.
Merci à Xavier, François et Antoine à la technique, sans qui cette émission n'aurait pas pu se faire.
Merci également à Colline, Mathilde et Jérôme pour leur aide dans la préparation et la réalisation de cette émission.
Et merci enfin à notre éditorialiste de la semaine, Thibaut, qui était en duplex depuis Paris.
Et n'oubliez pas d'aller du côté de la page En Plus pour retrouver les meilleurs sujets de l'émission en version écrite et originale.
Alors avec Marie-Ève, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le 19e numéro de Sans langue de bois, parole de militant, ou plutôt, on laisse la parole à Tatiana Fauconnet qui mettra en lumière des petits partis politiques avec des militants que l'on entend peu dans les émissions politiques, comme un militant de l'UDI, un militant du parti pirate et une militante anarchiste.
D'ici là, on ne change pas les bonnes habitudes. Surtout, n'oubliez pas, gardez l'esprit critique.